des principes actifs.
À Verneuil-d'Avray-Diton, sur le DAB+.
Sur le DAB+. Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
L'heure du journal, Martin Guèze. Les 27 de l'Union européenne se réunissent dans quelques minutes au Luxembourg et doivent notamment aborder la question de leur relation avec Israël.
Et tous ne sont pas d'accord, Andréane. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez plaide, lui, pour une suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Position renforcée par les derniers événements au Liban et à Gaza. Position loin d'être majoritaire, mais les 27 devraient revoir leur copie en termes de coopération économique avec l'État hébreu. Le Moyen-Orient, dans le flou, à l'heure où des négociations sont annoncées à Washington entre Israël et le Liban, alors que des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran sont, eux, bien incertains au Pakistan. Et pendant ce temps-là, la Chine hausse le ton et demande la réouverture du détroit d'Ormuz. Nous serons aussi dans ce journal en Angola, au dernier jour de la visite du pape Léon XIV dans le pays. Le souverain pontife qui met ensuite le cap vers la Guinée équatoriale. Gros plan ensuite sur la contribution des zones naturelles et culturelles les plus précieuses de l'humanité, établies depuis 50 ans par l'UNESCO. Et puis enfin, Tim Cook tire sa révérence. Le patron d'Apple laisse croquer la pomme à John Ternus, le futur PDG de la compagnie américaine.
Les Européens révisent leur copie et remettent en question leur relation avec Israël.
Alors que l'État hébreu s'établit dans le sud du Liban, nouvelle frappe de drone hier malgré le cessez-le-feu. Israël qui poursuit aussi ses démolitions dans la zone tampon qu'il souhaite instaurer au sud du fleuve Litani. Et c'est alors que les Israéliens doivent reprendre leur pourparlers avec les Libanais jeudi à Washington. Cessez-le-feu bafoué aussi à Gaza, une trêve instaurée le 10 octobre mais qui n'a jamais été vraiment respectée, qui n'a jamais vraiment empêché non plus les bombardements israéliens. 770 Palestiniens sont morts depuis cette date, dont 3 hier près de Khan Younes. C'en est trop pour de nombreux dirigeants européens, dont le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui appelle lui carrément à la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Proposition qui sera discutée dans une demi-heure à Luxembourg. Mais la chef de la diplomatie du vieux continent, Kaya Kallas, avance, elle, avec beaucoup plus de prudence, Pierre Benazé.
Nous allons évaluer s'il est possible d'avancer, affirme Kaya Kallas, la chef de la diplomatie européenne. Elle avait déjà recommandé l'été dernier que soit suspendue la partie commerciale de l'accord. Les Européens doivent se prononcer à l'unanimité s'il s'agit d'une suspension de l'ensemble, mais suspendre uniquement le volet commercial ne requiert que la majorité qualifiée des pays de l'Union européenne. Et ce volet pèse lourd pour Israël, puisque l'UE représente 33% de ses exportations et 40% de ses importations. L'Espagne, avec l'Irlande et la Slovénie, préconise une rupture complète de l'accord. Elle a donc peu de chances d'être suivie, malgré la disparition attendue du veto de la Hongrie. La majorité d'États nécessaires à la suspension du volet commercial ne paraît pas non plus acquise. L'Allemagne reste par exemple persuadée de l'utilité du maintien de l'accord d'association pour garder ouverts les canaux de dialogue avec Israël. Et cette position de prudence semble dominer parmi les 27. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Prudence de l'Union européenne donc, qui tire par ailleurs la sonnette d'alarme à Gaza dans un rapport paru hier. Élaboré avec l'ONU et la Banque mondiale, l'Union européenne estime qu'il faudra plus de 60 milliards d'euros au cours des 10 prochaines années pour reconstruire l'enclave. Près de 400 000 logements ont été détruits ainsi que la quasi-totalité des écoles. La moitié des hôpitaux sont hors service et plus de 72 000 Palestiniens ont été tués dans des bombardements israéliens depuis octobre 2023. En immense majorité des civils, selon un bilan publié par le ministère de la Santé du Hamas ce samedi. Des chiffres jugés fiables par l'ONU. Connexion difficile entre l'Iran et les États-Unis. Le signal paraît même proche d'être coupé, à en croire les dernières déclarations des deux belligérants. Alors que la trêve conclue il y a une quinzaine de jours se termine la nuit prochaine. L'Iran se dit prêt à battre de nouvelles cartes sur le champ de bataille, selon Mohammad Bahar Ghalibaf, le président du Parlement et nouvel homme fort de Téhéran. Donald Trump dit lui ne pas croire en la prolongation d'un cessez-le-feu au-delà de mercredi. Pourtant, des négociations sont toujours annoncées à Islamabad, où une délégation américaine est attendue. L'Iran dit de son côté ne pas vouloir de négocier sous la menace des pourparlers bien incertains. Donc, principal point de tension du conflit, le détroit d'Ormuz, encore et toujours, qui doit rester ouvert. Tempête Xi Jinping, le président chinois, extrêmement discret depuis le début des hostilités le 28 février dernier, est sorti de sa réserve habituelle. Au téléphone avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, Xi Jinping s'est de nouveau exprimé sur la situation au Moyen-Orient. Les dirigeants chinois sont à la manœuvre et haussent le ton, comme rarement, Nicolas Roca.
Une trentaine d'entretiens téléphoniques et de réunions avec ses homologues pour tenter de mettre fin au conflit. D'après le décompte de Reuters, Wang Yi, chef de la diplomatie chinoise, multiplie les contacts. Idem pour Jai Tun, l'émissaire spécial de Pékin pour le Moyen-Orient, qui a effectué une tournée dans 5 capitales du Golfe et du monde arabe. Une activité qui fait écho à celle de Xi Jinping. Le dirigeant chinois a proposé un plan de paix en 4 points la semaine dernière et s'est entretenu avec le prince héritier des Émirats Arabes Unis. Ce lundi, il a plaidé pour l'ouverture du détroit d'Ormuz dans un appel avec le dirigeant saoudien Mohamed Ben Salman. L'implication chinoise ne cesse de croître à mesure que ce conflit dure. Déjà acteur du cessez-le-feu obtenu par le biais de son partenaire pakistanais, Pékin s'active comme rarement tout en gardant une distance stratégique. D'abord car en cas d'échec, cela pourrait écorner l'image de la diplomatie chinoise qui s'efforce à se montrer en puissance de paix. Et puis les conséquences de la guerre sont nettement plus néfastes pour les États-Unis. Une situation plutôt bénéfique pour la Chine avant d'accueillir Donald Trump à Pékin dans les prochaines semaines.
Et pour l'heure, seulement 4 navires ont réussi à traverser le détroit d'Ormuz depuis dimanche. L'Iran qui garantit par ailleurs aux navires russes le libre passage dans ce détroit. 26 navires de la flotte fantôme iranienne ont pu contourner le blocus américain, notamment une dizaine de pétroliers.
Après 10 ans comme secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres cède sa place.
Le Portugais qui arrive au bout de son deuxième mandat à la tête des Nations Unies, lui qui a été élu pour la première fois en 2016. La course à sa succession est déjà lancée. Les candidats au poste sont entendus aujourd'hui et demain à New York. Des auditions publiques politique. Étape préliminaire obligée, 3 heures de questions devant les 193 États membres. Ils sont 4 sur la ligne de départ et Vincent Dublanche nous fait les présentations.
Il y a d'abord Michelle Bachelet, c'est l'ancienne présidente du Chili. Elle a un gros réseau et maîtrise les usages diplomatiques. Elle a occupé 2 postes à l'ONU, notamment aux droits humains. Elle n'y a pas laissé un grand souvenir à la Chine et cela pourrait constituer un handicap. L'Argentin Raphaël Grossi a fait l'actualité ces dernières années sur le nucléaire iranien, mais aussi sur le conflit en Ukraine, la menace sur les centrales, lui qui dirige l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle est moins connue, mais la costaricienne Rebecca Greenspan a des atouts. Elle maîtrise les crises, elle est économiste de formation, mais surtout à la tête depuis 5 ans de la CNUSED, la conférence onusienne sur le commerce. 3 latino-américains donc, et un africain, candidat au poste de secrétaire général, l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, pourra-t-il créer la surprise ? Il n'est en tout cas ni soutenu par l'Union africaine, ni par son propre pays.
Macky Sall qui passera lui son grand oral demain mercredi. Le prochain secrétaire général des Nations Unies prendra ses fonctions le 1er janvier 2027.
Et sur ce sujet, vous retrouvez ce matin l'analyse de notre grand invité Afrique, Francis Patindé, enseignant à Sciences Po Paris. Entretien à retrouver sur RFI.fr. Il est 8h07 à Luanda, le pape Léon XIV quitte l'Angola ce mardi.
Le souverain pontife qui met le cap sur la 4e et dernière étape de sa tournée africaine, à savoir la Guinée équatoriale, pays à 75% catholique. Léon XIV qui aura passé en tout 3 jours en Angola, voyage débuté dans la capitale, poursuivi à Mushima et à Soarimo, avant de prendre fin à Luanda, où il est revenu hier soir. Lors de son dernier acte officiel, il s'est adressé aux religieux et a rappelé que tous les Angolais avaient le droit de bénéficier des très riches ressources du pays. Une étape angolaise qu'a suivi Christiana Suarez pour RFI.
Le pape a achevé sa visite par une rencontre à l'église Notre-Dame de Fatima, où il a appelé à promouvoir une mémoire de réconciliation, rappelant le rôle des religieux dans la fin du conflit armé. 50 ans après l'indépendance, il a affirmé que le présent et l'avenir du pays appartiennent aux missionnaires et les a appelés à accomplir la mission de construire une société angolaise libre et réconciliée au bénéfice de tous.
Todos los angolanos.
Tous les Angolais ont sans exception le droit de participer à la construction de leur pays en bénéficiant de moyens impartiaux. Cependant, les disciples du Seigneur ont le devoir de le faire selon la loi de la charité.
Pendant 3 jours, Léon XIV a dénoncé les inégalités, critiqué la logique extractiviste et la corruption et appelé à une société plus juste. Le voyage prend fin ce mardi matin. Prochaine étape, Guinée équatoriale.
Et c'est la première fois depuis Jean-Paul II, il y a 44 ans, qu'un pape pose le pied à Malabo, en Guinée équatoriale. Jean-Paul II, déjà accueilli à l'époque par Teodoro Obiang, déjà en poste en tant que président équato-guinéen en 1982.
De graves accusations contre la mission multinationale de sécurité en Haïti.
Mission déployée depuis 2024 et en cours de retrait, qui n'est pas une mission onusienne, mais qui a un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. L'ONU qui a reçu 4 accusations d'exploitation et d'atteinte sexuelle impliquant des membres de cette mission. Mission menée par le Kenya, il s'agit notamment du viol d'une enfant de 12 ans et de 2 adolescentes de 16 ans. Human Rights Watch qui a attiré l'attention sur ce rapport, appelant la nouvelle force anti-gang en Haïti, pour laquelle le Tchad a promis d'envoyer 1500 hommes à mettre en place des garde-fous pour empêcher toute nouvelle violation. En bref, Andréane, le Japon ouvre la voie à des ventes d'armes à l'étranger. C'est un revirement historique. L'archipel avait adopté une politique d'autolimitation d'exportation d'armes létales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En vertu de la constitution pacifiste du pays, désormais la nouvelle première ministre Sanae Takaichi change donc de doctrine. Le Japon, par ailleurs, où 3 soldats sont morts lors d'un exercice militaire dans l'explosion de leur char. Il s'agit du 3e accident de ce type en 3 ans.
Watching you, but while your eyes betray what burns inside. what I feel for you. You only seem to care about you. Is there any chance you could see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you.
associatif.
Cette radio associative s'est rendue indispensable.
C'est vraiment la radio moderne qui apporte quelque chose.
C'est une radio libre.
Une radio libre.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principactif.net.
Voilà, je crois que vous n'êtes pas encore prêts pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça.
Ukudekeza kama mtoni, fura unafurahia. Kafogeuka moto, machozi umelia. Mwembamba mnene, mwena pesa kama Dangote. Naweza lijayo msiki, laweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya harmonize, fukuzishe mwarabu. Kama songi limekole
Asalinama Memo benda mungongo
Go, 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 go
Oya inama
Inama, baby
Basi benda mungongo
Go, 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 go
Asalinama
Inama, baby
Benda mungongo
Kama tungi limekosa
Oya inama Basi benda mungongo
Toujours l'amour est banaka Nefengo, baby, zuba, kalemba Kadoba, je t'aime tout le temps Mawele kawapi, bebe, nana sa présente Je t'aime.
Sa province contre les rues de la capitale avec en tête une ligne de mire aussi précise que radicale. Il voulait mettre le faux poudre dans les salles avec la foudre dans les yeux et le hip-hop comme arsenal. Mais très vite, noyé dans la masse, il prend sa claque. MC part au charbon car personne connaît son nom, personne connaît son son. Chaque soir c'est la pression, il réalise le chemin à parcourir avant d'être dans les bacs. Car c'est lent, c'est dur, c'est le passage obligatoire. Ça peut virer des rimes aux larmes en un éclair de désespoir. Le jour il bosse, la nuit la fuite son répertoire. Forcé de jouer sur les deux fronts pour pas finir à l'abattoir. Seulement, pour l'instant il vit dans l'ombre des têtes d'affiche. Pour l'instant seulement il fait ses classes quand d'autres restent à la niche. Alors il s'exécute, ferme les yeux et s'imagine. Monte sur les planches comme à Bercy avec derrière la grosse machine. Regard écarquillé, personne ne le comprend. En face de lui, y a que des vieux ou des enfants. Ils veulent danser léger, le rap conscient et tout sachant. La salle se vide progressivement et ça lui glace le sang. Il parle aux siens, se retrouve chez les branchouilles. Au dîner de con ce soir, ça mange de l'andouille. Un verre de trop et le dessert vient.